Les grands entretiens. Aujourd'hui, avec Émile Témine. Historien, professeur émérite à l'Université de Provence et à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur, entre autres, de l'histoire de Marseille, d'une histoire des migrations à Marseille et de Marseille Transit, les passagers de Belzunce, Émile Témine est un familier de cette ville dont il connaît l'insaisissable complexité, les tenants et aboutissants qui mènent depuis 26 siècles cette cité rebelle entre les pôles opposés de la prospérité et de la désillusion. Une ville de migrants, une ville étrange, pleine d'étrangers, un extraordinaire exemple de la pérennité du transitoire, de fait, une longue histoire de transit, de migration, d'échange, de métissage, une ville où le passager s'inscrit dans une histoire au long cours, une ville invisible, ou du moins discrète, ambiguë, improbable, dont nous allons essayer de relever les traces, qui ne se matérialisent pas tant sous forme de monuments, au travers du parcours de celles et ceux qui, passant et passage, en ont écrit l'histoire de leur modeste parcours. Émile Témine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette antenne, après l'hommage qui vous a récemment été rendu aux archives départementales et qui a avivé pour nous le désir de vous rencontrer et de mettre en perspective l'histoire de la cité phocéenne et le destin des générations de migrants qui l'ont bâtie. En guise d'introduction, je vous propose d'aborder très rapidement les prémices de l'histoire de Marseille, les pères fondateurs de cette cité. En effet, la légende et l'histoire se rejoignent pour désigner les phocéens, habitants de la ville de Phocé. La Grande Grèce, autrement dit, les confins de l'Europe et de l'Asie mineure. Alors, étrangement, aujourd'hui, la géopolitique moderne semble frappée d'amnésie, puisque la Turquie, qui recouvre aujourd'hui cette région de la Grande Grèce, au moins en partie, est écartée des projets d'extension de l'Union européenne, au motif qu'elle serait trop orientale pour être européenne. Alors, est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal que ces gens qui ont fondé des cités qui s'énorgueillissent d'être parmi les plus grandes cités d'Europe soient aujourd'hui tenus à l'écart de son développement ?
Le problème est un peu compliqué dans la mesure où, effectivement, l'Europe qui s'est construite récemment est une Europe continentale. Et on a laissé de côté un petit peu l'Europe méditerranéenne, c'est-à-dire l'Europe précisément qui nous intéresse aujourd'hui, parce que Marseille est sur la Méditerranée. Marseille est d'abord une ville méditerranéenne. Et par conséquent, aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire de Marseille, les fameux 2600 ans approximatifs et légendaires de l'histoire de Marseille, qui ont vu venir les Grecs d'Ionie, les Grecs d'Asie mineure, jusqu'à ce fossé d'Occident que va devenir Marseille, c'est un lien méditerranéen avant tout, de la Méditerranée orientale à la Méditerranée occidentale, qui n'a cessé de donner, si vous voulez, une partie de l'histoire de Marseille, de créer une partie de l'histoire de Marseille. Alors ça a commencé comme ça. Ça a commencé par l'arrivée des Phocéens. Ça a commencé par ces colonies grecques venues d'Asie mineure ou de Grèce qui ont traversé la Méditerranée d'est en ouest. Et Marseille a été le point d'arrivée, notamment de ces Phocéens. Et ensuite, le point de redistribution le long de la Méditerranée occidentale, depuis Nice jusqu'à Ampurias, sur les côtes espagnoles, de cette culture de la Méditerranée orientale, cette culture grecque de la Méditerranée orientale. Et les liens sont restés, et les liens restent encore à travers l'histoire même de Marseille.
Bien sûr, le clivage entre la Turquie d'aujourd'hui et cette Europe continentale qui se construit, c'est un clivage religieux. Ne nous cachons pas derrière le petit doigt. La géographie nous apprend que la Turquie n'est pas en Europe. On voit bien là qu'il y a quand même un lien très très étroit. Ce qui fait véritablement clivage, c'est que, bien que pays laïque, la Turquie soit un pays de tradition musulmane et que l'Europe aujourd'hui se pose question de savoir si elle se situe ou non dans une tradition chrétienne.
C'est évidemment le problème. Marseille est une ville qui, pendant très longtemps, justement, a été une ville essentiellement chrétienne, mais la chrétienté elle-même est venue d'Orient. il ne faut pas oublier que les monastères de l'Airain, c'est les gens qui sont venus installer le christianisme à Marseille, sont venus de la Méditerranée orientale. Par conséquent, il y a toujours le même lien est-ouest qui se traduit dans ces clivages religieux, dans cette appartenance religieuse. Et puis aujourd'hui, Marseille est une ville sans doute de tradition judéo-chrétienne, comme on dit, encore que le mot devrait être, mais aussi une ville musulmane importante. Donc les religions, ici, se sont rejointes.
Pour être encore dans une perspective historique, chronologique du moins, faisons un léger saut spatio-temporel, ou du moins temporel, pour passer à ces grandes années du développement de Marseille, un développement qui est lié au commerce maritime. C'est le commerce maritime qui a fondé la ville avec ses Phocéens. C'est le commerce maritime qui l'a développé ensuite au XVIIe, XVIIIe siècle. On assiste au grand développement du commerce international et maritime de Marseille et parallèlement à son développement urbanistique. Alors peut-être sur ces deux aspects qui sont étroitement liés, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces années, ces deux siècles du grand développement de Marseille ?
Oui, dire d'abord que, précisément, Marseille, c'est d'abord un port. Hein, ça, c'est un truisme, bien sûr, mais c'est un port sur la Méditerranée, avec deux axes, l'axe est-ouest dont je parlais, ou nord-sud, qui amènent justement ces migrants sur Marseille. Le développement du port et le développement de la navigation correspond aux périodes de prospérité de Marseille. Hein, ça, on peut remonter très loin dans le temps encore. Chaque fois qu'il y a développement de la navigation, il y a prospérité. Alors, ça va, ça vient. L'époque romaine n'a pas été une période défavorable à Marseille. Et puis après, il y a eu de sombres années de l'époque médiévale où Marseille a connu un recul de son activité portuaire et un recul de son activité commerciale. Et puis, on est arrivé à cette période de fond qui pour moi est contemporaine. Hein. Pour moi, le contemporain de Marseille, ça commence au XVIIe siècle, ça commence dans les années 1660, quand Marseille non seulement est devenue une ville française, elle l'est devenue au moment où la Provence a été rattachée à la France, mais est devenue aussi une ville, dominée par l'État français, l'État monarchique du XVIIe siècle. On sait que Louis XIV a en quelque sorte conquis Marseille par la force, c'est-à-dire qu'il a imposé à Marseille la tutelle de l'État. Et en même temps, il a favorisé le développement économique de Marseille. Il l'a favorisé de façon très importante dans les années 1660, au moment, et c'est là qu'on peut rejoindre l'histoire de la ville et l'histoire du port, au moment où se construit une ville nouvelle. L'époque Colberti, l'époque de Louis XIV, c'est l'époque à la fois où on va donner à la ville certains avantages maritimes, certains avantages dans son commerce avec la Méditerranée, et en même temps l'époque où on va construire le nouvel espace marseillais. La vieille ville était encore une ville très, très courte, très étroite, qui se bornait à la ville des Buttes, comme on disait, comme on dit encore d'ailleurs. Aujourd'hui, les Buttes n'ont pas disparu.
Entre la Sidon et la Butte des Carmes ?
Entre la Sidon et la Butte des Carmes. Et ce que crée Colbert, c'est la ville nouvelle, c'est-à-dire la ville qui s'étend en contrebas, au-delà de ses Buttes précisément, qui est aujourd'hui ce qui est la Belzunce, le quartier Belzunce, et le quartier de la Porte d'Aix. En gros, une ville nouvelle qui est destinée en particulier à être la ville des notables, la ville bourgeoise, et qui effectivement est une ville nouvelle avec le Grand Cours, qui a bien entendu changé aujourd'hui considérablement, mais qui est en somme une espèce de cours de boulevard, si vous voulez, réservé aux riches, dominés par les habitats, dominés par un habitat bourgeois qui est installé à cette époque-là.
Quel est le statut politique de la ville à l'époque ? Est-ce qu'elle est rattachée au comté de Provence ? Est-ce que c'est une ville royale, une ville indépendante ?
Marseille se dit toujours ville indépendante. Elle dit, nous ne sommes pas la Provence. Elle tourne le dos en quelque sorte à la Provence. Et elle tient beaucoup à ses libertés qui lui ont été reconnues à plusieurs reprises, à ses privilèges Donc le statut de Marseille, elle est très jalouse de ses privilèges, et très jalouse de ses avantages qui lui ont été reconnus, est un statut qui en fait une ville semi-indépendante et qui tient à cette indépendance et qui la revendique quelquefois aussi contre l'État.
Un commerce maritime qui devient prospère, quelles étaient les principales destinations des navires qui partaient de Marseille ?
Alors, le commerce maritime devient en effet un commerce maritime essentiel, mais qui prend des formes très différentes. On a retenu bien sûr le commerce méditerranéen. Il y avait les échelles du Levant, les échelles de Barbarie, c'est-à-dire toute cette zone commerciale qui s'ouvrait sur le monde musulman, sur le monde ottoman en particulier. Et Marseille avait là des privilèges. Elle était la ville même qui dominait ce commerce méditerranéen, au point que les négociants qui venaient d'Angleterre, qui venaient des Pays-Bas, qui venaient des pays septentrionaux, qui venaient de Suisse ou d'Allemagne du Sud, venaient s'installer à Marseille pour pouvoir faire ce commerce, pour pouvoir faire démarrer ce commerce. Et ils participaient naturellement à la prospérité de Marseille.
Quels étaient les rapports à l'époque entre la France et l'Empire ottoman, justement ? Je crois que Louis XIV avait accueilli l'ambassadeur de la Sublime Porte à sa cour. Est-ce que les rapports se normalisaient un petit peu après la période des croisades ?
Oui, on était loin de la période des croisades. Notez que Marseille avait participé à la période des croisades et y avait trouvé une partie de sa prospérité. Mais là, c'était autre chose. C'était le règne des capitulations, c'est-à-dire des avantages donnés aux négociants occidentaux. Et Marseille était en quelque sorte l'ambassadeur. Je dis ambassadeur, en parlant d'une ville, ça peut paraître bizarre, mais c'était l'ambassadeur, c'est-à-dire qu'elle avait des droits, c'est vrai, particulier, et que la Chambre de commerce de Marseille en particulier avait ses avantages, cet avantage de diriger en quelque sorte le commerce marseillais et y envoyer des négociants ou des fils de négociants qui dirigeaient les comptoirs de Constantinople, de Istanbul, d'Alexandrie aux villes de Barbarie. Donc il y avait vraiment un rôle majeur de la ville de Marseille qui s'étendait et qui permettait à cette ville de se développer son commerce. Mais il y avait un autre commerce. Depuis le XVIIIe siècle en particulier, ça avait commencé avant, qui était le commerce atlantique. C'est-à-dire que Marseille, en même temps, dirigeait sa navigation, dirigeait son commerce vers les mers du Sud, vers les mers du Sud dominées par l'Espagne, et aussi vers les Indes occidentales, c'est-à-dire vers les Antilles, où la France était présente, bien entendu.
Est-ce que, à cet égard, Marseille a participé à ce sinistre commerce triangulaire ? Qui a été, je pense, les ports de Saint-Malo ou d'autres, on sont un peu maintenant frappés oui. de cette histoire sombre. Est-ce que Marseille y a participé d'une manière ou d'une autre ?
Les Marseillais s'en défendent beaucoup. Bon, bien sûr, c'est ni Bordeaux ni Nantes. Marseille a tout de même un peu participé à ce commerce triangulaire. Pas énormément, c'est une question géographique. Et l'intérêt des négociants marseillais n'était pas essentiellement porté vers le trafic des esclaves. Il était porté vers un trafic qui partait vers ces mers du Sud et vers ces Antilles, qui en particulier apportaient des marchandises, des sucres par exemple, bon, un certain nombre de richesses qui venaient aboutir à Marseille. Et puis il y avait aussi, ce que l'on oublie souvent, il y avait souvent un travail particulier qui consistait à aller chercher les monnaies, l'argent qui arrivait d'Amérique du Sud, les piastres, et qui venaient ensuite se répandre en Europe. Et Marseille était au centre de ce trafic des piastres. Plus tard, on évoquera ça.
À l'époque de la guerre d'Indochine, oui, je crois qu'il y a eu un renouveau de ce trafic et qui était particulièrement lucratif.
C'est pas la même chose, mais une partie de la richesse de Marseille est venue en effet de ça, de passer des piastres au thalers, et on s'enrichissait au passage. C'est-à-dire que les négociants de la fin du XVIIIe siècle en profitaient très largement.
La ville de Marseille, donc, au XVIIe et XVIIIe, se développe. De grandes avenues, de grands cours se construisent, se bâtissent. La ville quitte son marécage ou son centre-ville médiéval un peu étroit. Et puis, l'histoire décide de profonds changements. Arrive la Révolution française. Chantons la Marseillaise, bien sûr. Peut-être la situation de Marseille au moment de la Révolution française.
Alors, il y a deux choses. Marseille, d'une part, est liée à cette révolution. Elle a commencé la révolution, si j'ose dire, avant la révolution, c'est-à-dire que Marseille a revendiqué des franchises particulières avant que n'éclate la révolution à Paris. Elle est liée à la révolution parisienne. La Marseillaise, bien sûr, le bataillon des Marseillais qui, en 92, va remonter vers Paris et prendre sa place dans la conquête des libertés et la prise des Tuileries. Ça, c'est resté, c'est l'époque de la montagne marseillaise, si j'ose dire, c'est-à-dire d'un Marseille révolutionnaire. Et puis, en même temps, Marseille est très gênée par la Révolution, parce que c'est un port et parce que l'entrée en guerre, en particulier de l'Angleterre, contre la France révolutionnaire, la France isolée et les blocus qui vont suivre, vont un peu ruiner le commerce marseillais. Alors les Marseillais, ils sont partagés entre deux tendances. D'une part, effectivement, ils sont divisés, bien sûr, comme la France l'est, mais il y a une forte tradition révolutionnaire qui commence là. Et en même temps, les Marseillais, ils aimeraient bien voir rétablir en quelque sorte les communications avec l'extérieur. Ils aimeraient bien un retour à la paix. Et Marseille a pris peu à peu à glisser dans une hostilité... je ne dirais pas la révolution, mais une hostilité au pouvoir parisien. Et ça a été très loin, puisque Marseille est devenue une ville contre-révolutionnaire qu'il a fallu soumettre.
Deux tendances, en effet, se sont fait jour à l'occasion de la Révolution française. Une tendance centralisatrice et puis une tendance décentralisatrice. Marseille était, j'imagine, plutôt du côté d'une révolution décentralisée.
Marseille est à la fois révolutionnaire et montagnarde pour une partie de sa population, mais d'un autre côté, elle adhère aux tendances fédéralistes. Elle veut effectivement, contre le pouvoir central, garder ses libertés, garder ses franchises, et par conséquent, elle est en opposition à ce pouvoir. Et le pouvoir central, en plus, se manifeste de façon brutale lorsque Marseille, qui était entrée en contre-révolution, va se trouver soumise au pouvoir central, à la Convention, et que les commissaires de la Convention vont la soumettre durement, au point même que l'un d'entre eux, Fréron, va envisager de débaptiser Marseille.
Ça devient la ville sans nom.
Sans nom. Ça ne va pas durer longtemps. Hein, ça ne va pas durer longtemps. Très rapidement, on va revenir à une tradition. Mais Marseille n'est pas... Marseille et le pouvoir central, c'est quand même une histoire qui n'est pas toujours une histoire, comment dirais-je, de sympathie provisoire. À la fois, on s'engage dans la révolution et en même temps, on n'aime pas cette centralisation du pouvoir. Et j'ajouterai une chose, c'est que plus ce pouvoir central se fera sentir durement, et de la révolution va passer au consulat ou à l'empire, et l'empereur Napoléon sera très 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 mal vu à Marseille, parce que Napoléon c'est la guerre, et Napoléon c'est le blocus, et Napoléon c'est l'empêchement en quelque sorte de voir, de retrouver cette richesse qu'avait donné le commerce.
Avec la Révolution se développe une construction intellectuelle qu'on appelle la nation, qui est au-delà du territoire, hein, qui est au-delà de ce qu'était autrefois le royaume, qui est une vue de l'esprit quelque part. Comment se situe Marseille par rapport à cette idée nationale à la fois probablement cocardière? Vous le citiez, les Marseillais participent à la Révolution très, très largement, mais en même temps, il y a un particularisme très, très, très... perceptible à Marseille, qui fait qu'on ne se sent pas forcément dans une entité nationale, ou en tout cas pas complètement, pas dissous dans cette entité nationale. Comment se positionne Marseille à l'égard de l'idée de nation ?
C'est précisément très ambigu, l'attitude de Marseille. Ambigu parce que d'une part, en effet, elle a adhéré tout de suite à la fédération, à la constitution même de la nation. et que il y a une tendance de très forte à Marseille, comment dirais-je, d'un patriotisme national, d'un patriotisme français, qui se maintiendra de façon assez étonnante par la suite, lorsque Marseille voudra, en quelque sorte, être à la fois l'image de la grandeur nationale et en même temps qu'elle gardera cette tradition fédéraliste que l'on retrouvera plus tard, après 1870, au moment de la Ligue du Midi, où Marseille sera en quelque sorte, à la fois voudra sauver Paris, et en même temps se porter au secours de Paris, et en même temps créer un État fédéral.
L'histoire de Marseille est étroitement liée à la vie, à la prospérité de son port, de son commerce maritime bien sûr. Après quelques années de blocus avec la Révolution, avec le Premier Empire de Napoléon Ier, arrive un Second Empire avec ce Napoléon que Victor Hugo appelait méchamment Napoléon le Petit, Napoléon III, un empire colonial, un empire qui se développe et qui permet un développement encore plus étendu du commerce colonial. C'est le moment où de grandes familles bourgeoises, cette fois-ci, non plus aristocratiques mais bourgeoises, apparaissent. Très fortement dans le paysage humain et politique de la ville de Marseille, les Fabre, les Fraissinet. Peut-être quelques mots pour nous raconter Marseille sous Napoléon III.
En fait, ça a commencé avant Napoléon III. Ça a commencé dans les années 1830-1850. C'est à ce moment-là que se construit le nouveau port de Marseille. Jusqu'alors, le port de Marseille, c'était le vieux port. Or, il est trop étroit, on ne peut plus tenir. Le développement même économique, commercial, maritime de Marseille, qui se fait précisément dans ces années-là, et qui se développe considérablement, réclame la création d'un nouveau port. Alors, on crée le nouveau port, c'est-à-dire l'avant-port de la Joliette, comme on dit, et puis plus tard, les ports nord, car décidément, le port évolue vers le nord, c'est-à-dire vers le delta du Rhône, en somme. Et on développe à ce moment-là un port et des compagnies maritimes qui deviennent extrêmement importantes, qui profitent de ce développement du port pour étendre leur commerce et le développer. Alors, il ne faut peut-être pas parler de colonisation à ce moment-là. Il n'y a qu'une colonie accidentellement devenue française, c'est l'Algérie. L'Algérie de 1830. Et c'est vrai qu'en 1830, quand on crée cette colonie algérienne, quand on commence à conquérir l'Algérie, les Marseillais sont les seuls en France à être favorables à cette conquête de l'Algérie parce qu'ils imaginent que ça va être le point de départ d'une grande prospérité. Alors la prospérité, elle est réelle, elle est réelle. Elle est d'abord une prospérité sur mer, mais elle est très générale. Hein. Je veux dire qu'elle s'étend à la fois vers toute la Méditerranée, on revient vers le Levant, derrière le Levant, il y a l'espoir d'aller plus loin. Après tout, c'est à la fin du Second Empire que l'on va inaugurer le canal de Suez, et qu'au début du canal de Suez, il y a les Sceptres, il y a les Saint-Simoniens qui s'appuient justement sur la Chambre de commerce de Marseille, qui trouvent à Marseille des appuis très, très, très importants. Cette Marseille qui est toujours anti-bonapartiste, hein, même sous le Second Empire, hein, on vote contre l'Empire, on vote contre les Bonapartes, mais en même temps, on profite de ce développement qui va être extrêmement important en Méditerranée. On va ouvrir la mer Noire, on va même aller plus loin, on va déjà commencer à voir le commerce marseillais s'étendre vers l'Atlantique, Afrique, Amérique du Sud, Amérique centrale. On revient, en somme, aux fondamentaux, comme on dirait en sport. Et en même temps, on voit s'ouvrir avec le canal de Suez la grande espérance marseillaise, c'est-à-dire l'expérience d'un commerce dans l'océan Indien et vers l'Extrême-Orient.
Parlons un peu des hommes, parce qu'après tout, ce sont eux qui font l'histoire, plus que les grandes dates ou les grands événements. Est-ce que ce commerce, cette prospérité du commerce sous le Second Empire au XIXe siècle draine à Marseille de nouvelles populations? Est-ce que c'est le début des grandes migrations, de l'arrivée des migrants à Marseille?
la ville va se développer avec ce grand commerce, avec cette période de prospérité des années 1860, qui est une très grande période de prospérité. C'est à ce moment-là que le Grand Marseille se forme. Alors, la ville même éclate. La vieille enceinte colbertiste disparaît. La ville s'étend de tous les côtés, du côté du nord, bien sûr. L'industrie suit en quelque sorte le commerce. Donc il y a une richesse étonnante, mais naturellement cette richesse, elle s'accompagne de l'avenue des hommes, parce qu'on a besoin des hommes, à la fois pour faire marcher le commerce, pour créer une industrie, pour développer en quelque sorte ces richesses, et pour donner à Marseille en quelque sorte cette puissance. Elle rêve, Marseille, les Marseillais rêvent à ce moment-là, le rêve marseillais c'est le rêve du 19e siècle, aller au-delà, essayer d'être une métropole, une capitale, quelque sorte, grâce à ce commerce qui s'étend sur le monde entier. Donc, il vient à la fois des négociants, des riches. Hein. Quand on parle de migration, il ne faut pas oublier les riches, ces négociants qui viennent d'un peu partout, renouvelant en quelque sorte le commerce du 18e, et qui sont les maîtres des compagnies maritimes, hein. Qui veulent transformer Marseille complètement en fonction du port. Hein. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, comme Mirès, comme les Pereire, qui vont vouloir relier la ville ancienne à la ville nouvelle, à la ville des ports, et qui vont restructurer complètement l'économie marseillaise. C'est à ce moment-là que les Pereire lancent l'opération de la rue impériale, qui va devenir la rue de la République, et qui est destinée précisément à rejoindre le port ancien au nouveau port et au nouveau centre industriel.
Où ils ont, je crois, englouti leur fortune dans un amer bouillon, puisque cette opération n'avait pas à l'époque bien marché.
Oui. C'est toujours un petit peu la même chose à Marseille. Hein. On lance les choses, ça ne marche pas jusqu'au bout. Mais en même temps, il reste la tranchée de la rue de la République, il reste les fortunes faites là-dessus, il reste que le port se développe et que l'on peut envisager pour plus tard un nouveau Marseille. Bon, ça, alors c'est vrai que ça s'est arrêté en route. Hein. Le Marseille haussmannien, il s'arrête à un certain moment lorsqu'on construit précisément, ou on tente de construire derrière la chambre de commerce, qui est une construction du Second Empire, il ne faut pas l'oublier. Un Marseille nouveau, ça s'arrête, on ne construit plus, et il reste à la place cette chose étonnante qui a marqué Marseille pendant 50 ans, pendant un demi-siècle, c'est-à-dire des terrains vagues en plein centre de la ville qui sont simplement lieux de passage, mais qui ne sont pas encore un lieu construit. On construira beaucoup plus tard. Mais peut-être faut-il revenir un petit peu sur l'arrivée des hommes. Parce que ça, c'est important. L'arrivée des hommes, c'est d'abord l'arrivée des hommes qui viennent des travailleurs, si vous voulez, qui viennent travailler sur le port, sur les docks en particulier, car on va construire les docks à cette époque-là. Les docks actuels sont l'héritage, enfin le bâtiment. Et l'héritage de ces docks qui vont être construits à ce moment-là. Et on va travailler sur les docks, on va travailler dans la ville, et il y a naturellement des constructions. Les usines qui vont venir s'installer à Marseille, se développer la richesse marseillaise, attire évidemment et demande une population de travailleurs immigrés. Donc ces travailleurs immigrés arrivent. D'où arrivent-ils ? Ils arrivent essentiellement d'Italie. Bien sûr, ils peuvent arriver de l'Europe entière. Ils arrivent naturellement aussi des régions voisines, les Gavots qui viennent des Alpes, les Cévenols, etc. Mais ils viennent aussi et essentiellement d'Italie, du Piémont, et puis plus tard de Toscane, et puis plus tard ils vont venir des régions napolitaines. Et Marseille va devenir une ville italienne. Ça, c'est une chose. Bien sûr, il y en a d'autres qui viennent. Hein. Il y a des Grecs, il y a, comme d'habitude, des Levantins. Il y a des gens qui viennent, pas d'Afrique du Nord. Hein. Nous n'en sommes pas encore à la période coloniale. J'y viens. Mais à ce moment-là, c'est une migration de proximité avec cette dominante italienne. Marseille, ville italienne, c'est une période qui s'est effacée un petit peu aujourd'hui, tout simplement parce que les Italiens sont devenus Français. Alors, le commerce, vous parliez de colonisation. Oui, la colonisation, bien sûr, Marseille, ville coloniale, c'est quelque chose qui date de la fin du 19e siècle. Lorsqu'on s'aperçoit que les difficultés, Marseille n'a pas totalement profité justement du canal de Suez, elle n'a pas totalement développé son commerce, c'est plus l'Angleterre ou d'autres pays qui en ont profité. Alors, Marseille devient une ville qui se dit que ses intérêts sont proches, avec l'Algérie, bien sûr, hein, avec l'Algérie. Mais de l'Algérie, on a poussé plus loin, et c'est dans les années 80 que ça se produit, hein, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire la colonisation elle-même. 81, c'est la Tunisie. 83, c'est Madagascar. Bon, toute une série, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'Empire colonial, mais il est vrai que les Marseillais vont largement en profiter. C'est une des choses qui est importante, c'est-à-dire qu'au moment où le commerce marseillais commence à donner des signes d'essoufflement, au moment où on a un peu de difficultés économiques, où on ressent des difficultés économiques à cause de la concurrence des autres grandes puissances, l'époque des nationalismes et de la montée des nationalismes, Marseille, au contraire, est une ville qui se développe par ce phénomène colonial. C'est vrai, elle se retourne vers la colonisation. Il ne faut pas oublier, ça déborde sur le début du XXe siècle, et il ne faut pas oublier que la première exposition coloniale, en 1906, se passe à Marseille, parce que Marseille s'est trouvé une vocation coloniale.
Un commerce colonial qui est très profitable donc pour un certain nombre de grandes familles qui effectivement s'enrichissent considérablement, mais qui draine aussi, on l'a vu, un certain nombre de migrants dans la ville de Marseille. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est le développement des mouvements ouvriers, 1848, la première révolution sociale. Et puis ces mouvements ouvriers se développent, c'est l'apparition du socialisme. Peut-être un petit historique de la présence et du développement des mouvements ouvriers à Marseille, parallèlement à cette industrialisation qui s'opère dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Là, nous rejoignons effectivement le développement économique de Marseille et cet appel à une main-d'œuvre qui va travailler sur le port et qui va travailler dans les usines et qui devient une main-d'œuvre extrêmement nombreuse, pas trop mal payée au début du 19e siècle, mais le temps passant, souvent dans des conditions assez difficiles. Marseille, le Marseille ouvrier qui se développe dans un certain nombre de quartiers particuliers. Vous savez, Marseille, le nouvel espace marseillais est d'abord cet espace justement des quartiers. Au fur et à mesure que la ville s'étend, que les usines se développent, on va voir de nouveaux quartiers apparaître où une population ouvrière va s'installer, une population ouvrière importante qui est amené à qu'il y a des problèmes incontestables de rapport, en particulier à un paternalisme patronal qui est remarquable de la cité phocéenne. C'est une tradition et deux traditions. Le paternalisme s'explique parce que au fond on ne veut pas s'engager dans une véritable politique ouvrière à Marseille. On n'a jamais un manque d'ouvriers à Marseille. Les immigrés qui arrivent, je vous parlais de ces Italiens tout à l'heure, les immigrés qui arrivent donnent une masse je ne vais pas employer des termes marxistes, mais quand même, c'est l'armée de réserve du prolétariat à ce moment-là qui se développe, et qui se développe, ce qui fait qu'on a vis-à-vis de ces ouvriers, de leurs revendications, disons, une certaine facilité de manœuvre. Alors, il y a des conflits. Il y a des conflits durs. Marseille, ville ouvrière, devient en effet une ville qui va accueillir à la fois un syndicalisme militant, le syndicalisme qui débute dans ce milieu du 19e siècle, et aussi des tendances à la fois socialisantes et anarchisantes. Il ne faut pas oublier, là, on est près de l'Italie ici, et il y a un individualisme marseillais qui se compose en même temps avec des revendications sociales. Et ces revendications sociales deviennent en effet très importantes. Et il ne faut jamais oublier, par exemple, qu'au lendemain du Second Empire, à l'époque de la Commune, eh bien, il n'y a pas qu'une commune parisienne. Avant même la Commune parisienne, il y a une commune marseillaise, il y a aussi une commune lyonnaise. Bon, c'est vite écrasé, hein. C'est vite écrasé, parce que l'ordre se rétablit très vite. Mais c'est quand même le point de départ d'un mouvement ouvrier qui continuera, qui renaîtra. C'est en même à Marseille que va avoir lieu le congrès fondateur du socialisme. C'est à Marseille que l'on va retrouver une agitation, notamment sur le port, une agitation ouvrière revendicatrice et très dure. C'est à Marseille que l'on va voir, on parlait des Italiens tout à l'heure, et c'est à Marseille que les Italiens, réfugiés politiques sûrement, vont créer en quelque sorte un socialisme de l'étranger, un socialisme italien, qui va être très actif. Et s'il y a eu pendant un certain temps entre le mouvement ouvrier, des ouvriers français, le mouvement des ouvriers italiens, que l'on soupçonnait parfois juste raison d'être des jaunes, d'être utilisés en quelque sorte par le patronat, il y a des conflits qui se créent à ce moment-là. Et puis, à la fin du 19e siècle, dans les premières années du 20e siècle, on voit brusquement ce mouvement ouvrier devenir un mouvement de collaboration entre les ouvriers français et les ouvriers italiens. Et à ce moment-là, il faut faire appel à des gens qui puissent justement être plus souples, qui puissent être utilisés pour briser ce mouvement ouvrier qui a donné quand même un phénomène extraordinaire. Marseille est quand même la première grande ville en France à avoir un maire socialiste. Il s'agit de Siméon Flessière, bien entendu, à l'époque, à la fin du 19e.
Émile Temim, vous êtes l'auteur avec Benjamin Stora d'un livre intitulé Immigrance, un livre dans lequel vous abordez les politiques des migrations, le statut des migrants, mais aussi l'image des migrants. Alors peut-être très rapidement, juste deux mots sur comment sont-ils perçus ces Italiens qui arrivent à Marseille et ces migrants positivement, avec fraternité ou bien au contraire, est-ce qu'ils sont méprisés ?
Il n'y a pas de fraternité dans ce domaine. Il n'y a que des rivalités. Quand on voit venir des étrangers qui viennent prendre votre boulot, que vous soupçonnez de venir prendre votre boulot, c'est autre chose. Il y a une réaction qui est une réaction souvent négative. Donc les Italiens ont été mal accueillis. Il faut rappeler les vêpres marseillaises, ce qu'on appelait les vêpres marseillaises. Donc ça n'a pas été un drame terrible. Il n'y a eu que 3 morts. Ça fait beaucoup déjà. Mais on a effectivement chassé les Italiens dans les rues de Marseille pendant quelques jours. L'immigré est toujours mal perçu. L'immigré est toujours mal arrivé. Et les Italiens l'ont été jusqu'au moment où, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un rapprochement entre le mouvement ouvrier et ces ouvriers italiens eux-mêmes, qui ont à ce moment-là revendiqué, à côté des ouvriers français, les avantages sociaux.
Les luttes sont internationales et ça n'est que dans ce registre qu'elles peuvent être fécondes, effectivement. Si elles ne sont que locales, eh bien, ne débouchent que sur des rivalités. Ces Italiens, une fois qu'ils se sont un petit peu sédentarisé dans la ville de Marseille, j'imagine qu'ils quittent les quartiers portuaires, les quartiers où traditionnellement les nouveaux arrivants débarquent des bateaux, et puis ils investissent des espaces spécifiques dans la ville. Comment est-ce que, au début du XXe siècle, j'imagine, la ville s'organise sous cette forme que l'on connaît aujourd'hui d'une multitude de quartiers, cette forme d'accumulation, d'agglomération de villages dans Marseille ?
D'abord, Marseille a toujours été une ville de villages. C'était une ville qui était composée de villages les uns à côté des autres, qui ont été peu à peu submergés par la population qui s'y est étendue. Et évidemment, les immigrés, quand ils arrivent, quels que soient ces immigrés d'ailleurs, ils arrivent dans les quartiers proches du port, entre le port et la gare, et par conséquent, c'est là qu'ils vont s'installer. Le quartier d'immigration, et c'est d'abord ce quartier entre port et gare, ce quartier des hôtels meublés, où on va débarquer, quelquefois on va y rester, quelquefois on va repartir par la gare pour aller plus loin, car Marseille est une ville de transit aussi pour ces immigrés. Et par conséquent, on va voir s'installer ces gens-là, d'abord dans les quartiers du centre, et puis peu à peu se développer dans les quartiers industriels et naturellement le long du port. Et puis, Marseille, ville italienne, devient en effet ville italienne, n'oublions pas. Un Marseillais sur 5 est un Italien. étrangers italiens. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà naturalisés. Donc, c'est énorme. Et naturellement, parmi eux, il va y avoir des gens qui vont franchir les frontières, si j'ose dire, qui vont passer en quelque sorte de là, des quartiers portuaires, des quartiers industriels, qui vont se répandre dans Marseille. Et qui vont se répandre et qui vont développer cette notion. Alors, vous avez des quartiers à dominante toscane et piémontaise, comme la Belle de Mai, précisément. Vous avez des quartiers comme les quartiers ouvriers du Nord. Je pense en particulier à toute la vallée de Séon, et on va jusqu'à l'Estac, bien sûr, où les Italiens vont être rejoints par les Espagnols au moment de la création de Rio Tinto. Où donc vous avez des quartiers ouvriers, en quelque sorte. Et ces quartiers ouvriers posent évidemment un certain nombre de problèmes. Même au moment des Vêpres marseillaises, les gens qui attaquaient les Italiens, ils ne se risquaient pas dans les quartiers italiens. Ils n'allaient pas attaquer, ils auraient été en nombre insuffisant pour pouvoir développer cette hostilité. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Mais au fur et à mesure, bien sûr, que la ville s'étend, les Italiens se dispersent dans l'ensemble. Il y a aussi des riches parmi ces Italiens qui commencent. Il y a une chambre de commerce italienne qui commence à se développer. Donc, vous voyez, ça, c'est une transformation qui se fait. Et puis, il y a cette internationalisation, en quelque sorte, de la migration. C'est-à-dire que Marseille est là une ville étonnante qui reçoit effectivement des gens qui viennent d'un petit peu partout. Et en particulier, ses liens avec le Levant sont anciens. Nous y voyons des Espagnols, nous y voyons des Grecs. On dépasse la migration de proximité pour voir s'étendre en Europe. La chose étonnante que nous avons mise en place, précisément soulignée lorsque nous avons travaillé sur l'immigration, l'histoire d'immigration à Marseille, c'est l'importance des Suisses, par exemple. Pensez, ça surprend toujours tout le monde, que les Suisses, c'était la deuxième minorité à Marseille, après les Italiens, bien sûr, mais avant tous les autres, pendant toute la fin du 19e et tout le début du 20e siècle. Occupant une place à la fois parmi les riches, bien sûr, mais aussi parmi les pauvres. C'est tout de même quelque chose d'étonnant que cette multiplicité. Alors, bien sûr, il y a les quartiers d'immigration. Il y a les quartiers d'immigration qui sont des quartiers pauvres en général et qui ont laissé peu de traces. Les traces qu'on retrouve, par exemple, dans le monde industriel, autour des anciennes usines, c'est là où habitaient les cadres. Les employés ou les ouvriers trouvent guère de traces de leur habitat qui a disparu parce que c'est un habitat très précaire, c'est un habitat très difficile. Marseille est une ville immense. Il faut bien penser ça. 2,5 fois Paris, ça, il faut toujours l'avoir en tête quand on parle de Marseille. Marseille, 2,5 fois Paris. Et il y a naturellement, dans cette ville immense, des territoires à conquérir, en quelque sorte. Tout se fait, comment dirais-je, dans une semi-clandestinité. C'est-à-dire, il n'y a pas... Bien sûr, il y a les constructions, il y a le Marseille du Second Empire, il y a les hôtels particuliers, mais l'habitat ouvrier, vous n'en trouvez plus trace. C'est un habitat de pauvres, c'est un habitat, j'allais dire, le terme qui va être employé, c'est un terme marseillais par excellence, c'est le terme d'enclos. On va créer ces enclos qui sont les ancêtres du bidonville. Et c'est là que les ouvriers vont souvent s'installer.
Peut-être une dernière partie dans notre entretien, abordons la période de la décolonisation, une période un peu difficile évidemment pour Marseille. Vous êtes l'auteur avec Jean-Jacques Jordy d'un livre qui est intitulé « Marseille et le choc des décolonisations ». Effectivement, c'est un choc marqué particulièrement par la guerre d'Algérie. Peut-être quelques mots sur comment Marseille s'est comportée à ce moment-là.
Très vite, il faut retenir ceci, c'est que Marseille, le déséquilibre marseillais, le développement de l'économie marseillaise s'était ralenti dans l'entre-deux-guerres, que Marseille, à ce moment-là, était devenue effectivement une ville au commerce colonial, dominant le commerce colonial, se repliant en quelque sorte sur le commerce colonial. Et par conséquent, 1906-1922, les grandes expositions coloniales, c'était le signe de ce développement. Donc Marseille s'identifie en quelque sorte à cet empire qui s'était développé avec l'appui de ces notables de Marseille. Et on se retrouve au moment de la Deuxième Guerre mondiale avec... Ça a été le premier choc, c'est le choc de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'effondrement de l'armée française, Marseille devenant le lieu à la fois d'asile d'un certain nombre de réfugiés politiques. Ça, c'était ancien, les réfugiés politiques qui trouvaient à Marseille, dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre, un lieu d'asile. Et avec la période de 1942, une coupure entre l'Empire, coupure de 2 ans, mais une coupure significative. Dans l'Empire, effectivement, le choc, le premier choc, c'est celui-là, c'est-à-dire la France vaincue, et dans ces conditions, la retransformation des rapports entre la France et l'Empire qui passe par Marseille. La première décolonisation, c'est la décolonisation en Extrême-Orient, c'est la guerre d'Indochine. Quel est le lieu où la guerre d'Indochine va être ressentie, alors que la France semble rester un petit peu à l'écart de ce qui se passe en Indochine. À Marseille, on ressent cette guerre d'Indochine comme quelque chose de fort. C'est les manifestations sur le port des ouvriers et des manifestations... notamment créées par une ville où le Parti communiste, il ne faut pas l'oublier, est devenu un parti important. Première élection après la Deuxième Guerre mondiale, 40% de votants communistes à Marseille. Après, ça tombera à 30%, mais 30%, c'est encore considérable. Donc, la guerre coloniale divise en même temps Marseille. L'héritage ouvrier se retrouve là, sur le port, dans les usines, et il y a des revendications. Donc, le choc, deuxième choc, si vous voulez, c'est-à-dire le fait qu'il y ait maintenant, en effet, un mouvement de décolonisation qui commence par l'Indochine. Alors, la guerre d'Indochine, à la fois, elle enrichit Marseille, parce que tout passe par Marseille, et il y a une illusion de la richesse marseillaise qui continue à ce moment-là. Et en même temps, il y a ce conflit, ce début de perte de l'Empire. 1954, c'est la fin de la guerre d'Indochine avec la France. En même temps, le début de la guerre d'Algérie, et la guerre d'Algérie, alors ça, va frapper Marseille encore plus durement, parce que effectivement, les liens avec l'Algérie, ça date de 1830, ça date de plus d'un siècle, le lien est très fort, le commerce avec l'Algérie reste très important, les populations européennes qui sont en Algérie sont directement marquées par la lutte d'indépendance des Algériens. Marseille est devenue déjà en 1954 un lieu où un très grand nombre d'ouvriers algériens sont venus déjà s'installer ou passer par le port pour aller ailleurs en France. Il y a quand même plus de 200 000 ouvriers algériens en France à ce moment-là. Et Marseille est la ville où la migration algérienne a véritablement commencé et s'est développée de façon importante. Alors, la guerre d'Algérie, ça renouvelle, si j'ose dire, la guerre d'Indochine, mais en plus dur. C'est-à-dire qu'on se sent directement touché par cette guerre d'Algérie. Et bien entendu, au moment de la grande vague de la décolonisation, c'est-à-dire dans les années 60, il va y avoir notamment, 62, c'est l'indépendance algérienne, c'est les accords d'Évian, et c'est la grande vague, en effet, de retour. Jamais Marseille n'a connu, en aussi peu de temps, l'arrivée de gens venant de l'extérieur, et en particulier d'Afrique du Nord. Il y a eu déjà des vagues migratoires, la vague italienne, la vague arménienne, dans les années 20, 1920. Mais jamais encore, ça n'a atteint cette importance absolument énorme.
Au point d'exacerber certainement des clivages, évidemment. Pourtant, il ne faudrait pas résoudre les conséquences de cette guerre d'Algérie à, d'un côté, l'Algérie française et ses tenants et partisans, l'OAS, et puis de l'autre, le Front de Libération Nationale, un clivage un peu binaire. Il y avait aussi, à cette époque, un certain nombre de gens qui pensaient autrement, et y compris parmi les Français. Je vous cite quelques mots d'un poète que vous reconnaîtrez dirait sans doute « Si chanter mon amour, c'est aimer ma patrie, je suis un combattant qui ne se renie pas », c'était bien sûr Jean Sénac. Peut-être juste au passage deux mots sur la personnalité de Jean Sénac et à l'instar de Camus, d'autres qui avaient une position tout à fait différente de la majorité à propos du conflit algérien.
Là, vous me touchez directement parce que j'ai consacré une partie de mon travail à ces libéraux d'Algérie, comme Camus, que j'ai fait aussi rendre honneur, comme Odizio, qui ont combattu pour une Algérie fraternelle, pour autre chose que l'Algérie de la colonisation. Et bien sûr, certains d'entre eux sont allés plus loin, comme Sénac, qui a, au moment de la guerre d'Algérie, finalement rompu, un peu avec Camus d'ailleurs, qui était son père spirituel, mais qui a rejoint le FLN. Il était en France, hein, mais il a rejoint le FLN quand même. Et après, il est allé s'installer en Algérie. Il y est mort d'ailleurs, assassiné. Mais c'était
assez tard, je crois, en 1973, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Il a vécu en Algérie, mais son indépendance d'esprit l'a rendu suspect. Comme il avait été suspect en France, il a été suspect en Algérie et il en est mort. Mais il reste dans ses traces, si vous voulez, des hommes des années 30, dans ses traces des hommes qui ont essayé de tout leur cœur, en quelque sorte, d'adhérer à la fraternité qui pouvait exister entre l'Algérie et la France. Il reste cette possibilité, en dépit de tout, en dépit de l'éveil de l'islamisme dur dans les années 90 en Algérie, qui a obligé un certain nombre de gens à se replier à nouveau vers la France, il reste un lien. Il reste un lien que je voudrais quand même évoquer, parce que pour moi c'est quelque chose de très important, hein, ce lien qui existe, qui fait que, en dépit de l'islamisme de l'époque mohammedienne, la France, l'Algérie, je veux dire, l'Algérie est devenue et restée un pays qui a des attaches avec la France beaucoup plus fortes qu'on ne le pense. Bon, alors, je ne vais pas faire l'éloge de la francophonie, mais il n'en reste que Marseille est une des villes à la fois qui est proche, justement, de ce monde francophone, et où, en même temps, toutes les langues africaines et noir-africaines, y compris l'arabe, se retrouvent, s'entendent dans la rue. C'est-à-dire que c'est un nouveau pari pour Marseille. Est-ce que la ville va pouvoir, justement, être à la fois une ville qui se reconstruise entre la Méditerranée et l'Europe, être ce lien qu'elle a toujours été entre la Méditerranée et l'Europe, en même temps par l'économie, l'évolution de la création de fosses, le côté économique tourné vers l'Europe du Nord, et en même temps par les gens même qui arrivent à Marseille, qui viennent peupler Marseille, qui passent plus loin. Cette ville reste d'une autre façon, d'une façon différente, mais elle reste une ville qui est une ville de jonction, d'échange, de rencontre. Il ne pourra pas se redévelopper sans cette acceptation de sa vocation méditerranéenne, mais en même temps, il est évident que c'est l'enjeu d'Euroméditerranée. Est-ce que cet espace-là pourra devenir ou redevenir ou prendre sa place dans le contexte d'une économie qui est une économie mondialiste, dans le contexte de la même manière que les hommes qui viennent à Marseille ne sont plus uniquement des Italiens, ne sont plus uniquement des Algériens. Ces Algériens qui étaient venus en très grand nombre, même après la décolonisation.
Beaucoup d'entre eux viennent aujourd'hui de Chine, notamment, de l'Extrême-Orient.
Ils viennent du monde entier. De Chine, pourquoi ? Parce que tout simplement la Chine a un surcroît de population qu'elle amène à gagner le monde entier, aussi bien du côté de l'océan Pacifique, de l'océan Indien, que de la Méditerranée. Et Marseille est touchée. Comme elle est touchée par les autres immigrations venant de l'océan Indien, précisément, venant des régions africaines qui s'est développée. Les régions africaines, je parle naturellement de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire de l'Afrique noire, qui est en train de développer une forte immigration vers Marseille. Alors, chaque immigration posant des problèmes particuliers.
En tout cas, prospère ou pas, Marseille continuera sans doute encore longtemps d'accueillir des hommes et des femmes du monde entier. C'est sa nature, je crois, profonde, et espérons que ça pourra continuer longtemps. Je voudrais juste, pour se quitter, citer l'histoire de Marseille et de la Révolution à nos jours, d'Émile Témim, c'est publié chez Perrin, et rappeler aussi que Émile Témim continue aujourd'hui à publier des ouvrages, et je crois aussi à être intéressé par le cinéma. Juste deux mots sur un travail dans lequel vous êtes engagé en ce moment et qu'on pourra peut-être voir bientôt.
Bientôt, il faut le temps de le faire. Mais c'est vrai que pour moi, le livre et l'image, c'est quelque chose d'inséparable. Je crois que l'image, d'autant plus que nous sommes dans un monde de l'image, est essentielle et qu'il faut essayer de la développer. Alors, oui, c'est pas un hasard si je me suis lancé et on va se lancer avec mon ami Lalaoui dans un travail sur les Algériens à Marseille précisément, parce que Marseille est une ville qui a été une ville italienne, qui l'est toujours, mais qui est aussi une ville algérienne liée à l'Algérie. Il n'y a pas de barrière qui ne s'effondre un jour. Il n'y a pas de mur qui puisse être franchi. Je crois au franchissement des barrières. Et c'est pour ça que je me tourne précisément vers ce monde-là, ce monde méditerranéen, qui retrouvera peut-être un jour ses liens, en dépit des querelles, en dépit des affrontements, en dépit des hostilités de part et d'autre de ces deux rives.
Tous les murs s'effondrent un jour. Belle conclusion. Merci beaucoup, Émile Témim.